Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici d'abord les titres. La MONUSCO renforce la riposte à Ebola. Un important lot de matériel remis à l'hôpital général de Bounia pour protéger les personnels soignants en première ligne. L'Ubuntu sous tension, 6 morts après affrontement, le calme revient, mais la population réclame la restauration de l'autorité de l'État. En Ituri, depuis le début de l'année, plus de 2700 emplois temporaires créés, 18 infrastructures construites ou réhabilitées et plusieurs axes routiers remis en état dans les zones longtemps affectées par les conflits. C'est le bilan dressé par le programme STAR RDC pour les exercices 2024-2025. Pour en parler, nous recevons son coordonnateur provincial, Steve Senguida. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur la radio de la paix. En Ituri, l'hôpital général de référence de Bounia a reçu ce dimanche un important lot de matériel et d'équipements de protection individuelle. Cet appui provient des casques bleus bengladais de la MONUSCO engagés dans la lutte contre la propagation du virus Ebola qui touche depuis plusieurs semaines l'Ituri et la ville de Bounia. Parmi les dons remis, des désinfectants, des boîtes de gants, des blouses, des cartons de savon liquide ainsi que des gels hydroalcooliques. La remise officielle a été faite au directeur de l'hôpital général, le docteur John Katabuka, qui souligne que cet appui contribuera à réduire le risque de contamination pour le personnel soignant. Le docteur Katabuka lance également un appel aux partenaires nationaux et internationaux pour renforcer la riposte contre cette maladie qui a déjà fait de nombreuses victimes en Ituri. Le docteur John Katabuka est au micro de Martial Kizabiamongo.
Cette assistance sera très importante tout simplement parce que vous savez, à chaque fois que le personnel soignant qui doivent recevoir les cas suspects de la maladie à virus Ebola, c'est désormais, ils vont déjà avoir aussi des équipements de protection individuelle au niveau de l'hôpital, pas seulement dans le centre de traitement, mais aussi dès la réception, ils auront déjà des équipements de protection individuelle. Parce que vous savez, l'épidémie nous a surpris alors qu'on ne s'attendait pas. Le premier personnel qui avait touché aux malades ne savait pas que c'était des cas d'une épidémie. Et puis, l'ici était, vous aviez vu des médecins mourir, des personnels être malades. Donc, c'était ça. Alors, avec ça, cela pourrait déjà contribuer à lutter contre cette maladie, mais aussi à prendre bien en charge les patients, mais aussi et surtout à protéger les personnels soignants qui sont de la première ligne.
Dans le même registre, au Nord Kivu, les communautés chrétiennes de la ville de Beni s'engagent à leur tour dans la prévention de l'épidémie. Devant plusieurs églises, des dispositifs de lavage des mains ont été installés, accompagnés d'équipes équipées de thermoflashs pour contrôler systématiquement la température des fidèles à l'entrée des lieux de culte. Afin de garantir le respect des mesures de distanciation physique, certaines paroisses ont adapté pour l'organisation en multipliant les célébrations réparties en plusieurs services. D'autres ont choisi d'installer une partie des fidèles dans la cour des églises afin de limiter la promiscuité. Cependant, malgré ces efforts, plusieurs responsables religieux déplorent le manque d'accompagnement des autorités compétentes, notamment en ce qui concerne la fourniture des matériels de prévention et le renforcement des messages de sensibilisation. Reportage signé Marc Marofimbo.
Devant l'église catholique centrale de la ville de Beni, par exemple, la rigueur est de mise. Pas d'accès au lieu de culte sans lavage des mains et les poignées de mains sont strictement interdites. À Madrandele, dans la communauté adventiste, les mesures de riposte sont également appliquées avec fermeté. Ici, les diacres sont postés à l'entrée de la cour, munis de thermoflashs pour la prise de température, juste à proximité des dispositifs de lavage de mains. À l'intérieur de l'église, des bandes isolantes sont fixées sur les bancs afin de garantir le respect de la distanciation physique. Pour les chargés de développement de cette communauté, le niveau d'alerte est resté élevé. Jacques Mieri.
Nous sommes vraiment en alerte parce que nous avons déjà mis au point une équipe de riposte. Nous avons le lavabo, nous avons le thermoflash, le respect des mesures barrières au sein de notre congrégation et la sensibilisation de nos membres quant à ces pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Nous recevons chaque sabbat plus de 700 personnes et pour le moment, nous avons divisé le nombre par deux et les autres sont éparpillés dans la cour pour respecter d'abord cette distanciation de 1 mètre pour éviter les contacts.
Devant les mosquées de la ville, tout comme d'autres églises protestantes et des réveils, les responsables veillent scrupuleusement au respect des mesures barrières pour freiner la propagation de la maladie à virus Ebola dans la ville. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Et puis, la saison sèche s'installe progressivement dans la capitale, accompagnée de poussières, de fraîcheurs nocturnes et d'une recrudescence des maladies respiratoires. Grippe, bronchite, pneumonie ou encore crise d'asthme affectent de nombreuses familles, en particulier les enfants et les personnes âgées. Les médecins invite la population à adopter des mesures préventives pour limiter les risques liés à cette période climatique. Le docteur Clarisse Kapinga rappelle les comportements à privilégier et les signes qui doivent inciter à consulter rapidement un médecin. Elle est au micro de Christian Makasinga.
La saison sèche est particulièrement marquée par la baisse des températures, surtout la nuit. Ceci favorise la propagation des maladies. Parce que la grippe, les bronchites et autres pneumonies sont souvent liées à l'inhalation de la poussière. Les crises d'asthme qui deviennent plus fréquentes, les amygdalites qui sont très récurrentes chez les enfants. Pour éviter la survenue de ces maladies, il est recommandé d'opter pour l'habillement qui recouvre les extrémités du corps, c'est-à-dire tête, mains et pieds, de boire régulièrement de l'eau, 2 litres en moyenne par jour, consommer des fruits et légumes pour renforcer l'immunité et surtout de porter le masque pour éviter l'inhalation de la poussière, privilégier les nourritures et les boissons chaudes. Nous conseillons de consulter les médecins lorsque vous avez une toux allant au-delà des 10 jours, une difficulté à respirer ou une respiration sifflante, une douleur dans la poitrine, une soif intense, une sécheresse de la bouche et de la langue, des urines rares, très foncées et surtout une fièvre supérieure ou égale à 39 degrés Celsius, surtout chez l'enfant.
Sur le plan sécuritaire, province du Maniema, le calme est revenu ce lundi matin à Lubutu où l'on a signalé le week-end la mort de 6 personnes, plusieurs blessés ainsi qu'un déplacement massif de la population. Ces incidents font suite aux affrontements entre les Wazalendo du général autoproclamé Alphani Bukuyu et les FARDC. Selon les premières informations recueillies, les éléments Wazalendo, après avoir fait incursion dans la commune de Lubutu, ont tenté en vain d'accéder au dépôt d'armement. Face à leur échec, ils ont tiré en désordre, provoquant ces pertes en vies humaines. Des voix s'élèvent pour réclamer la restauration de l'autorité de l'État, tandis que les autorités provinciales rassurent la population. Reportage de Florence Kizalunga.
Cette nouvelle attaque crée la désolation au sein de la population, particulièrement en cette période où les enfants se préparent à passer les examens d'ITENA suspects. Le ministre provincial de l'Intérieur, Lawamo Selemani, souligne l'engagement du gouvernement provincial à rétablir l'ordre et à renforcer la sécurité dans la région.
Déjà, les enfants sont en train de se préparer pour passer l'examen d'ITENA suspects. Mais le monsieur Bukuyu, toujours lui qui crée trop de problèmes, nous appelons la population au et les enfants à se préparer. Nous sommes déjà en train de prendre contact avec les autorités de l'éducation pour que les enfants puissent passer cet examen en toute quiétude.
De son côté, le député national honoraire de Lubutu, Stanislas Oleko, recommande la descente sur terrain des autorités nationales et provinciales pour régler cette question.
Actuellement, que les élus, tant au niveau national que provincial, se rendent à Lubutu afin de parler avec M. Bukuyu. Parce que ces élus ont le mandat de la population de Lubutu, laquelle population est en train de souffrir dans la forêt, sous les intempéries, sans aucune assistance. Et il y a mort d'homme et des blessés.
Les appels se multiplient pour que les autorités nationales s'impliquent davantage dans la résolution de la problématique des Wazalendo dans cette province. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans la province du Tanganyika, pendant ces temps, plus de 500 réfugiés congolais qui vivaient en Zambie, dans les camps des réfugiés de Matampala, ont été rapatriés en RDC via le territoire de Pweto. Le HCR souligne que le dernier convoi est arrivé vendredi dernier. D'après la chef de la sous-délégation du HCR dans le Grand Katanga, cette opération s'inscrit dans le cadre d'un programme de rapatriement volontaire. Le point avec Paulin Munanga.
Le rapatriement volontaire des réfugiés congolais qui vivaient en Zambie est un processus qui a débuté en mai dernier, souligne le HCR. Le premier convoi est arrivé dans un centre de transit en territoire de Pweto le 21 mai, le deuxième le 27 mai et le troisième convoi de réfugiés en provenance de la Zambie est arrivé en RDC ce vendredi 5 juin. Au total, 184 ménages constitués de plus de 500 personnes sont déjà rapatriés et le processus se poursuit, annonce le HCR. La chef de la sous-délégation du HCR dans les Grands Katanga explique la procédure une fois qu'un réfugié est accueilli au centre de transit de Pweto. Cathy Daniel Moni.
Tous arrivent par Pweto, ils sont accueillis, ils sont logés au centre de transit, au village Santé, à 7 km de la frontière Lukinda à Pweto, en attendant de recevoir leur kit, leur assistance, ce qu'on appelle le paquet retour, selon la modalité CBI, qui est payée par la TND. Une fois qu'ils reçoivent l'argent, ils sont raccompagnés dans leur zone d'origine.
Cathy Daniel Moni ajoute que la plupart de ces réfugiés sont ceux qui ont fui les exactions des miliciens Bakata Katanga en 2017 dans diverses contrées du Grand Katanga. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
En bref, la haute cour militaire a rendu son verdict dans l'affaire du double assassinat des experts des Nations Unies, l'Américain Michael Sharp et les Suédo-Chiliennes Zaïda Catalan, tué en mars 2017 alors qu'ils enquêtaient sur les violences dans la province du Kasaï central à la suite de l'insurrection de la milice Kamwena Sampou, réprimée par les forces de sécurité. Ces gens en appel et en dernier ressort, la juridiction a condamné vendredi 5 juin dernier à la peine capitale les 54 prévenus poursuivis pour crimes de guerre par meurtre contre 49 lors du premier jugement. L'Église du Christ au Congo, ECC, estime que toute initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un dialogue national inclusif et apaisé. Cette position a été exprimée lors de la 66e session extraordinaire tenue le 7 juin 2026 à Kinshasa. Par ailleurs, l'ECC appelle les partis politiques à privilégier un dialogue démocratique national et inclusif pour aborder les questions institutionnelles. On écoute un extrait de la déclaration lue par le pasteur Dominique Moukania, secrétaire rapporteur du comité exécutif national de l'ECC. Il est proposé par Alain Irung.
L'Église du Christ au Congo estime qu'une initiative de réforme constitutionnelle dans le contexte actuel doit impérativement répondre à l'exigence d'un cadre national inclusif et apaisé, conformément aux dispositions des articles 5, 218, 219 et 220 de la Constitution. Fort de ces évidences, l'Église du Christ au Congo appelle les partis à recourir à la sagesse divine, confère 1 roi 3, 16 à 28. Et aux valeurs ontologiques africaines de l'arbre à palabre. Le dialogue démocratique national et inclusif reste la voie idoine dans ce contexte précis, conformément aux résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les résolutions de l'Union africaine et de l'Union européenne, ainsi que des accords de Washington et de Doha.
En Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, un phénomène attire de plus en plus l'attention des automobilistes et des passants. Des jeunes garçons installés le long des principales avenues se sont lancés dans le nettoyage des véhicules à l'aide de machines à pression. Cette activité, autrefois limitée à quelques points de lavage bien identifiés, semble aujourd'hui se multiplier à grande vitesse. Une présence grandissante qui suscite des interrogations. S'agit-il d'une nouvelle forme d'initiative économique, d'un manque d'encadrement ou d'un simple effet de mode? Que se cache-t-il derrière cette émergence soudaine? Esther Dalafina nous en dit plus.
Sur l'avenue Cathédrale, à quelques mètres du rond-point de l'Indépendance, des jets d'office, des chiffons s'agitent et des jeunes s'affairent autour des voitures. Ils sont parfois deux ou trois, chacun avec un rôle précis. L'un pulvérise, l'autre frotte, un troisième essuie. Des machines à pression flambant neuves, des seaux, des savons industriels. Adolphe Kabotela affirme avoir trouvé là un moyen rapide de payer ses études.
Ça, c'est mon propre travail, mon propre business. Pas trouver un bon travail. Au lieu de volé, j'ai choisi ça.
Les motocyclistes et les propriétaires de véhicules profitent désormais de la multiplication des points de lavage car les prix y sont devenus plus négociables qu'à l'époque où la ville n'en comptait qu'une poignée limitée à 5 sites. Jean Bouilly, trouvé sur place, s'est réjoui.
Nous sommes contents du travail effectué parce qu'ils le font bien. Ça nous permet d'utiliser les engins propres.
Derrière cette débrouillardise, plusieurs questions émergent, dont notamment l'occupation anarchique de l'espace public, la dégradation possible des routes récemment asphaltées, comme l'indique ici Joseph Kanyana.
Avec les savons qu'ils utilisent au moins, d'un moment à l'autre, ça va abîmer la route.
Certains observateurs appellent sans doute à une régularisation pour préserver à la fois l'espace public et la sécurité des usagers. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Retour dans la capitale avant d'aller plus loin. Dans la commune de Selembao, sur l'avenue Révolution, quartier Louboudi, le caniveau est complètement envahi par des tas d'immondices qui s'étendent jusqu'à la rivière Makelele. Selon les riverains, ces déchets seraient déposés chaque nuit par certains vendeurs du marché de Selembao. Conséquence, odeurs nauséabondes, prolifération des moustiques, recrudescence des maladies et risque d'inondation. Face à une situation devenue insupportable, les habitants appellent à une intervention urgente des autorités. Les détails avec Ella Chembalou.
Les caniveaux de l'avenue Révolution est complètement bouché par des déchets qui s'accumulent sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'à la rivière Makelele. Les riverains assistent impuissants à cette situation.
À l'origine, ce sont les vendeurs du marché Selembao qui déposent les déchets. Nous avons essayé de nettoyer nous-mêmes car les immondices sont trop nombreux et très compactés.
Dans ces coins de la capitale, les riverains vivent au quotidien avec des odeurs désagréables, des moustiques et des maladies fréquentes comme le paludisme et la fièvre typhoïde.
Nous souffrons constamment des maladies. Regardez-moi, je viens à peine de terminer un traitement et la maladie est déjà revenue. Comment vous voulez qu'on puisse guérir dans un environnement où règne une mauvaise odeur et insalubrité?
Les habitants appellent aux autorités compétentes à assainir la zone, tout en insistant sur la responsabilité de chacun dans la gestion des déchets.
Dans un environnement où règne une mauvaise odeur et insalubrité, chacun doit nettoyer devant sa parcelle. On ne peut pas attendre les autorités alors que certains jettent et même des déchets ici. Il faut que chacun prenne ses responsabilités.
Au-delà de l'insalubrité, c'est surtout la santé des riverains qui reste la principale préoccupation dans cette zone de la capitale congolaise.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, les déguerpissements ont repris de plus belle en moins d'une semaine à Abidjan. En pleine saison de pluie, les opérations de restauration de l'ordre urbain du district autonome suscitent les critiques, notamment de l'opposition. À Port-Bouette, dans le sud de la capitale économique, un deuxième quartier précaire est en cours de démolition. Vridri Canal existait depuis plus de 60 ans.
L'invité.
En Ituri, depuis le début de l'année, plus de 2700 emplois temporaires créés, 18 infrastructures construites ou réhabilitées et plusieurs axes routiers remis en état dans des zones longtemps affectées par les conflits. C'est le bilan dressé par le programme STAR RDC pour les exercices 2024 et 2025. Dans un entretien exclusif accordé à Radio Capi, son coordonnateur provincial dresse l'état d'avancement des activités engagées à mi-parcours de l'année 2026. De nouveaux travaux routiers doivent aussi bientôt démarrer à Mahagi. Quel est l'impact concret de toutes ces réalisations pour les communautés bénéficiaires? Réponse avec Steve Senghida, qui est interrogé par Jean-Claude Lokidile.
Steve Senghida, bonjour.
Oui, bonjour.
Première question, quel bilan faites-vous de vos activités menées au cours de ces 5 premiers mois donc de l'année en cours?
Effectivement, le projet est en plein essor en province de l'Ituri. Nous avons depuis 2 ans déployé plusieurs activités en faveur des communautés vulnérables, mais aussi nous accompagnons le gouvernement provincial dans son élan vers la stabilisation de notre province qui fait face aux conséquences des conflits armés qui non seulement ont endeuillé nos entités, mais aussi réduit en néant le potentiel économique de nos populations.
Quelles ont été les principales réalisations enregistrées durant cette période?
En fait, à ce jour, nous avons, de manière générale, nous avons développé plusieurs projets d'infrastructures, notamment la vague des 18 premières infrastructures, dont 14 écoles et 4 centres de santé, qui ont été construits et équipés et livrés aux communautés en territoire d'Irumu. et d'Indjougou pour l'exercice 2024, dont les travaux ont pris fin en 2024. Ça, c'était pour 2024.
Ah, d'accord.
Les travaux ont pris fin en 2025 et nous avons livré ces écoles, ces centres de santé aux communautés bénéficiaires et qui sont déjà en cours d'usage. Nous avons également en même temps lancé et clôturé les travaux de réhabilitation des deux axes routiers importants des dessertes agricoles, l'axe allant de Kombokabo à Tchekele, à territoire d'Irumu, et l'axe allant de Soleniama à Largou, en territoire d'Indjougou, où plus ou moins 2700 travailleurs ont bénéficié des emplois directs et temporaires pour 100 jours, lesquels emplois ont non seulement permis à ces communautés de reprendre l'élan de cohésion là où la rupture y avait, mais aussi de bénéficier de revenus qui leur ont permis d'améliorer, de relever leur niveau de vie, étant donné que ces emplois ont été payés en faveur de bénéficiaires directs. Deuxièmement, ces activités de timon que nous avons fait ont réduit sensiblement les taux de criminalité. Aujourd'hui, sur l'axe Soleniama, Baranganza jusqu'à Largou, les rapports en notre possession font état d'une baisse presque à 90% des taux de criminalité. Aujourd'hui, les taxis-voitures font Largou-Bounia, amenant les passagers et les marchandises. Bref, nous essayons de désenclaver et d'améliorer le vivre ensemble, surtout que cette zone a souffert des ruptures de cohésion.
C'est pour combien de temps? Vous savez, la situation de l'Ituri, elle est toujours précaire, fragile. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que ces projets puissent durer dans le temps, Steve Senghida?
Nous n'avons pas fait des communautés de simples bénéficiaires, mais nous avons fait d'elles des acteurs ou des actrices de leur développement. Ils ont été au centre de toutes les actions que nous avons menées et ils en ont tiré les dividendes.
Qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie qu'en les responsabilisant pour des questions liées à leur bien-être, ils se sont sentis valorisés et ont compris la nuance qu'il y a entre le développement, donc la paix et le développement, et les chaos dans lesquels ils vivaient. Aujourd'hui, à l'ITA, les gens vous demandent les structures sanitaires parce qu'ils n'en ont plus. Ils ont été détruits complètement. Aujourd'hui, ils comprennent que pour un mal des dents, il faut aller à Baranganza et avoir les autres communautés se développer, avoir les autres territoires se développer. Ils en ont tiré les leçons et se sont engagés résolument sur la voie de la pérennisation des acquis de la paix que le gouvernement et ses partenaires sont en train d'implémenter.
Steve, vous parlez de la pérennisation, comme vous le savez si bien, il y a encore des armées qui circulent là-bas. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça va nous garantir que ces projets vont durer dans le temps?
Cela fera bientôt 3 ans que nous sommes dans la région. Nous avons réalisé des grands projets sans incident. Nous avons développé des activités intenses dans des zones jadis inaccessibles, dont les autorités administratives ne pouvaient pas mettre le pied à Bounia parce que leur statut leur posait problème. Mais aujourd'hui, ils sont en mesure de venir rencontrer le gouverneur et à ce titre, ils ont ouvert leurs entités aux opportunités de développement en faveur de leurs enfants, de leurs épouses et de leur devenir. Aujourd'hui, nous avons travaillé dans des zones comme Awalindou, Piti. Nous avons réalisé des ouvrages sans incident et aujourd'hui, 2 ans après la mise en œuvre de la première phase, nous sommes fiers d'annoncer que ces communautés ne sont pas forcément celles que nous avons comme impression ici ou la perception que nous avons d'elles. Parce qu'en les rapprochant, nous avons découvert que c'était des gens qui étaient disposés à changer de camp. Et aujourd'hui, 2 ans après, nous annonçons que l'expérience Star RDC a essayé d'apporter une nouvelle donne. Où non seulement on prêche la paix, mais on vient consolider la paix par des opportunités que les communautés ne pouvaient pas s'offrir.
Merci Steve Senghida.
Je vous en prie.
C'était notre invité Steve Senghida qui s'entretenait avec Jean-Claude Lokidile. Voilà qui met fin à ce journal parlé de la mi-journée, coordonné par Élisée Chikota-Chivueta, supervisé par Alain Hirong-Moshige et mis en onde par André Mongou. Ce journal est à suivre sur notre page TikTok et à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.